Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission où que vous soyez actuellement à nous écouter sur la 93.5. Sachez que nous vous portons dans notre cœur. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée et aussi pour la confiance que vous faites toujours à votre radio Canal FM, La Nouvelle Génération. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité. La rentrée scolaire 2025-2026 est prévue pour le 15 septembre prochain. Comme depuis alors un temps, le ministère des Enseignements a rendu public les fournitures scolaires. Les cahiers avec des emblèmes du Togo sont recommandés, mais ne sont pas obligatoires. Comment trouvez-vous cette précision alors du ministère? Nous allons aborder le sujet dans cette émission Club de la Presse et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 3 septembre 2025. Et bienvenue au Club. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez. Vous savez que la coordination est assurée ce matin par Michel Kokou, Vitor Betomega, et qui est au niveau alors de la technique. La mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles, bien sûr, à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière, à Nero, Radio La Paix, à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Bagapré de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Merci surtout également à vous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Je suis Anani, bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Dieu merci. La respiration hier, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Bonjour à tous les confrères ici présents. Bonjour techniciens. Bonjour fidèles de l'émission. Et je n'oublie pas la population de Barugui. Monsieur Abba Kodjo, le premier responsable de l'ONG Semetra, qui organise demain des activités liées à sa recherche, notamment sur le traitement de plusieurs pathologies qu'on pouvait quand même qualifier de thérapeute, parce qu'aujourd'hui, face aux problèmes de santé que nous avons, je pense que les plantes aussi jouent grandement leur rôle. Et il a pris sur lui, à travers ses recherches, et surtout avec les professeurs en collaboration, d'organiser une rencontre d'enseignement, de formation des jeunes, de toutes les bonnes volontés qui vont se déplacer, mais à zéro franc, demain à Barugui, pour que tout ce qu'il a appris à travers ses recherches soit quand même partagé par les jeunes. Et il a même dit que dorénavant, lorsqu'il s'agit maintenant de traiter des pathologies comme la tension artérielle et autres, hypertension, diabète et toutes les maladies qui dérangent aujourd'hui, qui tuent notamment
et ces maladies les enfants, qui sont récurrentes aujourd'hui. Hein.
Voilà, les maladies silencieuses là. Le fruit de ces recherches seront quand même partagés à la population demain, à zéro franc. Donc, il a seulement demandé aux gens de venir avec leur stylo et bloc-notes pour noter beaucoup et comment composer les plantes pour avoir des résultats liés au traitement. Donc, tout sera donné demain à Barugui. Je pense que c'est une très bonne initiative, surtout que nous avons ici en studio nos amis thématiques santé et éducation qui en parlent régulièrement. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc, je salue Monsieur Abba Kodjo.
Vous essayerez.
Certainement, puisque la fois dernière, j'ai fait un tour à Baroubé et je suis tombé sur une des rencontres de ce genre et au cours de laquelle ça a été dit que demain, le 4 jeudi, déjà à partir de 9h, donc toute la population de Baloubé est conviée à suivre cette formation-là qui certainement va apporter beaucoup de solutions.
Alors, ce qui m'impressionne bien chez toi, c'est que tu vas souvent alors dans les localités les plus reculées hein, pour des informations et même d'ailleurs pour ces rencontres. Et là aussi, c'est quelque chose quand même que nous devons cultiver.
Oui, ça, il le faut. Surtout que nous sommes des journalistes, on ne va pas seulement rester dans la capitale à Lomé ici, aller sur les lieux de reportage, couvrir ou faire des investigations sur un certain nombre de sujets. Mais forcément, il faut aller à l'intérieur, aller rencontrer le bas peuple. Les difficultés qui sont liées à leur quotidien, je pense qu'il faut quand même les rapporter. Et vous n'êtes pas non plus sans savoir que je collabore avec plusieurs radios de l'intérieur, notamment la radio Mokpokpo qui est basée à Fagnan, RTDS qui est basée à Nehor, et encore d'autres radios à l'intérieur du pays, même à l'extérieur, avec lesquelles je travaille. Donc il y a aussi des thématiques qui sont tellement propres, qui sont liées à nos vécus quotidien qui forcément nous amène quand même à aller rencontrer ces populations-là et voir ce qui se passe à l'intérieur du pays.
Donc, comme voilà, quoi le Togo ne s'arrête pas à Lomé.
Forcément. Donc, tous ceux-là qui vont me chercher demain, ils n'auront pas la chance. Je serai de l'autre côté à Baroubé. Donc, je salue au passage Madame Victoire Dogbé, qui est du milieu.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Justin Anani. Basile Mignaké, bonjour.
Bonjour, Pascal. Et bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices de la nouvelle génération.
J'espère que vous allez bien.
Non, je vais très bien.
Mais avec ce sourire là. Justement, avec ce sourire. Et c'est très rare quand même de voir le directeur sorti quand il s'agit alors de santé éducation. Mais je sais que hier vous avez lancé MAPES. C'est sur la conférence de presse que vous avez animée. Et nous allons en parler dans un instant, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous allez bien.
Quand on est béni, on va toujours bien. Donc, je crois que la question ne devait même pas être posée parce que c'est vrai que
sinon ça va. Trop béni
qu'il va toujours bien.
Je vais bien. Malgré tout ce qui ne va pas, moi, je vais bien.
D'accord. Dieu merci. Ce qui est sûr, le commandant aussi va bien. Commandant, bonjour.
Il va bien sans avoir la bénédiction de qui que ce soit.
Est-ce que les commandants ont toujours besoin quand même de bénédiction?
On n'a même pas besoin de bénédiction.
Puisque naturellement, vous êtes béni.
On est béni. Complètement béni.
Oh, écoutez, quand il fait ma compagnie, c'est normal qu'il soit béni.
Merci. J'espère que vous allez bien.
On rend grâce et je salue tous les auditeurs et autrices qui nous suivent en ce moment.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Gadielton a dit bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Ça
aussi.
Va.
Dieu merci. Vous n'avez pas de grade, hein?
Oh, ben, peut-être que je vais rejoindre la basse. Il va m'octroyer une grade là.
Oui.
On verra si je peux commencer par suivre le chemin de commandant.
Même si vous n'avez pas de grade,
ça sera difficile pour moi.
Tu vas directement.
Pas directement.
Oui, mais parce que, à vrai dire, on ne sait même pas aussi le parcours alors du commandant. Ouais, finalement, on sait qu'il est commandant, quoi, c'est tout. C'est l'essentiel.
D'accord.
Merci, chers confrères, j'aime bien cette ambiance du début d'émission. Basile, c'est vrai, on va commencer.
Cette ambiance est très thérapeutique, ce que nous venons de faire.
Oui.
Et même les auditeurs et puis auditeurs et auditrices qui nous écoutent aussi des fois rire à notre compagnie.
Tout à fait.
La thérapie est partagée.
Il semble que le rire est thérapeutique.
Tout à fait.
D'accord. Alors, vas-y, c'est vrai, je le disais, vous avez annoncé MAPES hier à travers une conférence de presse. Concrètement, pour cette année, MAPES, quelle couleur cela aura?
Oui, nous continuerions dans le sens de la campagne communautaire. C'est dans ce sens que nous sommes rendus hier pour le lancement dans le marché de Toti, avec les bonnes femmes, nos sœurs, nos mamans, qui ont tout apprêté pour nous accueillir. Et hier, c'était la bonne ambiance. Et on a fait passer le message. Vous savez, santé, éducation, son credo, c'est la prévention. Et cette année, c'est prévenir, prévenir, c'est guérir. Oui, c'est le thème.
C'est le thème, bien sûr.
Investis dans ta santé. Donc, nous demandons à tout le monde d'être acteur, comme ça a été par le passé, d'être acteur de sa propre santé, d'investir. Investir, ce n'est pas nécessairement de l'argent, tu vois. On peut investir en changeant de comportement. On peut investir en apportant quelque chose de plus pour améliorer notre santé. Et Justin vient de le dire avec ce qui va se passer à Badoubé. Vous savez, Dieu a conçu le monde et a fait une mise en place pour chaque communauté. Est-ce que vous voyez? Chaque communauté avec sa médecine traditionnelle. Il a parlé des plantes. Chaque région avec ça pour un temps soit peu soulager les maux de nos populations. Et donc, santé éducation est partie dans ce marché pour sensibiliser, éduquer nos BAM. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous organisons de ces marchés, c'est difficilement qu'elles rejoignent nos sites. C'est difficilement parce que vous savez.
Vous voulez parler alors des femmes lors du marché.
Elles viennent, elles sont autour de leurs étalages du matin jusqu'au soir. Vous savez, nous on dit que la sédentarité est un risque majeur de ces maladies non transmissibles. Et donc, nous leur avons expliqué avec certains spécialistes comment se comporter, comment mener cette pratique pour améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie. Vous savez, l'enquête de cette année, non, de 2021, qui a été publiée l'année passée.
L'enquête STEP, vous voulez dire.
Nous sommes au rouge. Nous sommes au rouge. Et donc, la santé a apporté un coup dans nos pays. Nous traînons trop de pathologies. Et ces pathologies sont évitables. Aujourd'hui, les études sont claires. Toutes ces maladies sont réversibles. Il suffit qu'on porte une amélioration à notre vie quotidienne. Donc, hier, c'est ce que nous avons pu échanger avec nos dames. Et on a expliqué aussi à la presse, parce que la presse était là. Cette année, Santé Éducation a fait de telles enceintes que la plateforme des médias en santé apporte un appui à ce que nous allons faire. Donc, c'est dans cette synergie d'action que nous allons évoluer avec les autres médias. Et donc, cette année, c'est du 4 au 9 novembre.
Du 4 au 9 novembre.
Donc, nous sommes en train de prendre des dispositions, de mener des actions à l'endroit des sponsors pour appuyer. Et donc, le marché d'acier avec nos bonnes femmes hier, ça ne va pas s'arrêter là. On a prévu le marché de Hankopé et le grand marché de Thévier. Donc, ce qui veut dire que la tâche ne sera pas facile.
Est-ce que ça veut dire que c'est les deux marchés qui sont retenus pour abriter cette initiative?
Ça sera le troisième marché. Parce qu'on a commencé par le marché de
Tanti.
On ne va pas s'arrêter là-bas. D'accord. Parce qu'il y aura des rencontres avec nous pour essayer de leur, parce qu'elles ont souhaité. Hier, si vous étiez là-bas, vous allez voir qu'on a fait des démonstrations même concernant la marche. Elles disent comment il faut marcher pour avoir la santé. Donc, on a pris quelques échantillons là-bas. Elles ont vu que marcher aussi, pas tout de suite, mais elles ont senti cette nécessité que c'est ça. Parce qu'elles sont victimes de toutes ces pathologies que nous publions chaque jour dans Santé Éducation. Et la clé de leur santé est dans leurs mains. Donc, il faudrait qu'on puisse s'investir nous-mêmes. Et c'est le message là qui a été apporté aux bonnes femmes.
D'accord. Et le message qui a été apporté aux bonnes femmes hier. Et donc, du 4 au 9 novembre prochain, Mabé, c'est le marché du bien-être et de la santé. Tout alors,
Togo aura lieu. Avant d'aller, il y a des actions qu'on aura mené.
D'accord.
En ce qui concerne, il y a un grand symposium où tous les médias vont se regrouper pour se pencher de pourquoi santé ne décolle pas au Togo, pourquoi il y a tant de pathologies. Hein, c'est pas nous qui le disons, c'est l'enquête qui
et a c'est le constat ça, qui
voilà. Et vous savez, l'OMS qui est la grande fêtière des nations a dit que un peuple éduqué sur une pathologie réduit le risque de la virulence de 43%, c'est énorme. Pourquoi on n'arrive pas à investir dedans et puis on attend les malades, on attend que la pathologie érige domicile avant qu'on ne réagisse. Et ça porte un coup dur sur notre système de santé. Donc, on est toujours dans le traitement. Et donc, notre appel, chaque mercredi, c'est ce que nous faisons à Santé Éducation. Mmh. Chaque jour et chaque mercredi, on fait des chroniques. C'est pour amener nos concitoyens à se rendre compte de cette évidence-là. Qu'il y a ces pathologies-là qui sont récurrentes. Les AVC, chaque week-end maintenant, vous savez ce qui se passe. Les vendredis dans les morgues, dans les établissements où il y a des morgues, vous allez voir qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes que nous enterrons inutilement. En quoi que ce sont des maladies évitables, on dit que des maladies évitables. Aujourd'hui, quelqu'un qu'on est en train d'amputer à l'heure où nous sommes là, 5 ans avant, 10 ans après, s'il avait l'information, on devait éviter cette amputation. Ça fait que la charge tombe sur des familles. Aujourd'hui, nous sommes submergés. Des familles sont submergées par les dépenses de sa santé. C'est énorme.
C'est énorme. C'est énorme. C'est
et
énorme.
Donc, nous disons, nous lançons cet appel. Nous disons, si on ne s'investit pas dedans, nous, à Santé Éducation, ça fait 20 ans que nous sommes en train de mener cette lutte-là. Ça fait 20 ans que nous parlons chaque jour de ça. Mais il faudrait que ceux qui ont l'autorité, la gestion de la santé de notre nation nous écoute aussi, nous accompagne pour qu'on puisse mener cette lutte là.
Oui, justement, cette lutte. Oui, mais donc, Basile, c'est vrai, vous l'avez dit tout de suite, ça fait 20 ans que vous avez commencé déjà cette lutte, ce combat, mais il y a des gens également qui ont des moyens qui pourront facilement vous aider, et là, c'est le moment alors de leur lancer justement un appel vibrant, justement, pour qu'ils apportent leurs moyens aussi modestes que cela soit, et pour que du moins on arrive à accompagner ce combat ou cette lutte là.
Oui, c'est ce que nous faisons. Même ceux qui ont ces moyens-là sont victimes aussi de tout ce qui se passe. Est-ce que vous voyez ? Aucune famille n'est
épargnée.
Aucune famille n'est épargnée. Mmh. Aucune profession. Tout le monde est touché par ce qui arrive. Et donc, nous lançons encore cet appel parce que la semaine prochaine, on rentre dedans. Il y a le ministère aussi qui organise quelque chose. À la fois dans Santé Éducation appui parce que toute œuvre qui va apporter quelque chose à la population, au bien-être de la population, Santé Éducation est toujours prête à accompagner ces initiatives là. Donc nous lançons encore cet appel: prévenir vaut mieux que guérir. Les médecins qui nous écoutent, les infirmiers, toujours le corps médical en sait quelque chose dans ce sens-là. Pourquoi ne pas s'investir? Pourquoi ne pas être à l'avant-garde de cette bataille que nous sommes en train de mener? Mmh. Et donc, nous lançons l'appel aux sponsors, aux partenaires, que ce n'est pas du business que nous faisons. Santé Éducation ne fait pas du business. L'argent que nous mettons, ça, oui, pourrait nous faire quelque chose. Mais nous avons conscience. Nous avons ce devoir, nous avons ce sacerdoce d'agir dans le compte de nos populations. Si notre population se porte bien, c'est tant mieux pour nous. C'est bien pour le développement, c'est bien pour la nation.
Voilà. Ouais. Il semble que le développement même passe par là.
Aujourd'hui, même les essais de l'Union africaine disent que les problèmes de la santé sont au même titre que les problèmes sécuritaires. Mmh. Parce que si on fait la résultante de ces maladies pathologiques, ça dépasse largement des crises de guerre que nous avons. Donc, nous devons mettre l'accent sur d'abord la prévention. Aujourd'hui, l'information, c'est le médicament, c'est aussi le médicament. Si tu apprends de quelque chose, tu l'appliques, tu t'en sors mieux.
Oui,
tu
vois.
Mais si tu es dans l'ignorance, je pense que tu auras tous les problèmes de ce monde.
Et comme quoi l'ignorance tue.
Ah, naturellement.
Voilà. Alors, et Basile, merci beaucoup. Hein. Et si les bonnes volontés voudraient bien vous accompagner, quels sont les contacts sur lesquels ils peuvent vous appeler?
Je pense que Gadiel là, parce que c'est le manager. C'est le manager.
D'accord. Hein, alors, manager. Monsieur le manager, bonjour.
Bonjour.
Alors, Gadiel, nous allons parler des titres à l'ordre de santé éducation. C'est vrai, le directeur le disait tout de suite. Vous faites toujours dans l'alerte contre alors des maladies, des pathologies. Et là, c'est votre manière de sensibiliser les populations. Ce matin, vous écrivez à la une de votre. Enfin, ce titre qui m'intéresse, bien sûr, dans votre journal paru aujourd'hui, vous écrivez « Fossile, quand la beauté met la vue en danger ».
Oui, d'abord, je peux donner le numéro pour le Mavis.
Pourquoi pas, j'avais voulu quand même que vous le faites à la fin
d'accord.
De cette chronique.
Okay. Oui. Okay. Oui, les fossiles. C'est vraiment un drame quand vous faites des recherches par rapport à ce phénomène. Vous savez, quand on fait un petit bilan, nous on a fait des recherches, pas vraiment des études, mais il y a quelques enquêtes qui ont été faites sur les fossiles et cela prouve que c'est vraiment dommage pour les femmes plus que on va dire plus que la beauté qu'elles recherchent par rapport à ce phénomène là. Les fossiles avec les cols qu'on met sur ce machin et qu'on pose au niveau des yeux, c'est un phénomène qui conduit à des infections, qui conduit à la sécheresse oculaire, qui peut même amener à la cécité. Quand on regarde un peu au niveau des chiffres, sur le plan même mondial, les femmes sont plus victimes des problèmes oculaires. Que ce soit cataracte, cécité, sécheresse oculaire, les infections au niveau des yeux, tout, les femmes sont en tête. Donc, celles qui s'aventurent dans ce phénomène de peau de fossile, attention, parce que souvent on le fait quand on est jeune, mais vous allez voir que dans l'âge, cela va créer des problèmes au niveau des yeux. Donc, c'est une alerte que nous mettons dans cette parution. Les fossiles, attention. A des dommages sur les yeux.
Ça prend de l'ampleur, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a les make-up qui sont en quelque sorte en vogue et de telle enseigne que finalement, vous ne pouvez pas faire alors des make-up sans avoir aussi des fossiles et ces autres au visage.
Des make-up, des chirurgies esthétiques, des injections dans les lèvres, beaucoup de choses aujourd'hui qui font que des femmes qui sont nées à quelques âges après, elles vont refaire leur peau, elles vont refaire leur corps, et c'est beaucoup de dommages sur la santé. On ne voit pas ce côté, mais quand vous allez faire des recherches, vous allez voir que il y a des femmes qui ont été vraiment endommagées, qui ont endommagé leur corps, qui ont endommagé leur santé par rapport à ce genre de choses. Oui, c'est la mode, hein. C'est plein aujourd'hui, mais attention. Hein, je pense qu'il faut que la sensibilisation s'y passe pour que beaucoup comprennent que ce n'est pas vraiment un allié santé, ce genre de phénomène.
Et même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a certains quand même qui se dénomment des cosmétologues et apportent des solutions sur ce plan, c'est-à-dire comment arriver à avoir une bonne peau, et à avoir ci, à avoir ça. On écoute quand même de cela aussi, hein, de ces choses ces derniers temps sur les réseaux sociaux.
Oui, bon, vous savez, les réseaux sociaux offrent beaucoup de choses, hein.
Oui.
Donc, il faut prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. Mais attention, hein, le corps que Dieu nous a donné au départ, je pense que c'est déjà bon. Surtout au niveau des femmes, il faut faire attention parce que vous venez de parler de make-up, où vous vous habillez, puis après vous vous tachez avec beaucoup de couleurs le visage. Cela n'est pas pour la santé, quoi, est-ce que vous voyez?
Il semble que c'est ce qui plaît aux hommes, c'est ça?
Oui, hein, c'est ce qu'elles disent, mais bon, franchement, si on fait une enquête au niveau des hommes, je ne suis pas sûr que le oui va l'emporter par rapport à certaines choses qu'on voit, par rapport au make-up, par rapport aux chirurgies esthétiques. et les injections dans les lèvres, tout ça, je suis pas sûr que le oui va l'emporter.
D'accord. Autre titre qui m'intéresse bien, c'est vous parlez, vous écrivez crevette alliée de la santé cardiovasculaire.
Oui, Pascal, un aliment que nous avons, un aliment aquatique hein, que nous avons chez nous, mais combien consomment les crevettes? Nous avons découvert, suite à une étude, que c'est un allié santé pour la santé cardiovasculaire. La santé cardiovasculaire, je viens d'en parler, c'est on ne peut plus grave dans notre pays. Donc, d'après cette étude, les crevettes riches en potassium, en magnésium, un certain nombre de nutriments, bons pour ceux qui sont en surpoids, ceux qui sont obèses, ceux qui sont des hypertendus et diabétiques. Alors, comment consommer cela? On a donné quelques pistes dans cet article. Mais attention, si vous êtes allergique aux crevettes, ne forcez pas.
Vous intéressez encore à une pathologie, c'est l'arthrose. L'arthrose, vous écrivez aliments et recettes.
Arthrose. Beaucoup de femmes se plaignent au jour le jour. Hein. Il y a beaucoup de candidats qui tombent dans l'arthrose actuellement. Plus de femmes que d'hommes. Mais c'est une réalité. Et quand vous prenez... faites un échantillonnage au niveau de, ou bien vous prenez seulement un parent, mais une parente qui souffre de l'arthrose, vous allez voir que la personne, elle a tout fait, elle a pris tel médicament, elle est allée à l'hôpital, elle a visité tant. Mais dans cet article, nous proposons une naturelle, d'abord l'alimentation. Quand vous êtes tombé dans cette histoire d'arthrose, d'abord, il faut extraire certains aliments et privilégier d'autres. Donc, on a donné quelques exemples dans cet article. Et puis, il y a quelques recettes pour atténuer la douleur et puis les enflures. C'est des recettes très importantes que nous proposons à tous ceux qui sont au niveau, en tout cas, qui vivent, qui sont victimes de l'arthrose.
Alors, c'est des articles à lire, alors, dans votre journal Santé Éducation paru ce matin. Et là, pour quelles sont les conditions pour avoir le journal?
Pour avoir le journal, vous vous abonnez ou bien vous achetez dans les kiosques en pharmacie ou bien vous allez sur le site internet www.santé-education.tg pour l'acheter.
Là, maintenant, je pose la question hein, au manager concernant surtout les contacts à avoir pour ce qui concerne les bonnes volontés qui veulent accompagner
le Mabès. Oui. Le Mabès 91 93 25 45. Et puis 90 05 09 89.
Gadiel Tsunandi, merci d'être passé alors dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Et oui, nous allons aborder notre premier sujet hein, pour le compte alors de cette émission. Justin, c'est vrai, on sait que pour ce qui concerne alors la rentrée scolaire, c'est bien sûr le 15 septembre. Et la rentrée, cela sera précédé d'abord par la rentrée pédagogique, puisque le ministère nous a habitué à cela, où le corps administratif procède à sa rentrée d'abord avant les élèves. Les élèves, c'est déjà le 15. Et oui, dans la foulée, il y a un certain nombre de des fournitures quand même qui ont été listées pour les élèves. Et au-delà de cela, on insiste sur également des cahiers qui doivent porter l'emblème alors du Togo. Mais ce sont des recommandations, ce ne sont pas des obligations. L'intérêt est toujours là pour ce qui concerne le civisme chez les élèves, c'est ça?
Oui, tout à fait. Parce que c'est le constat qui a été fait depuis. On se rend compte que tout ce qui tel l'ambiance du pays ou les indicateurs qui, quand même, devraient être maîtrisés par les élèves, n'y sont pas. Donc, à partir de là, il faut essayer de les stimuler. Vous, on a pensé pouvoir quand même inscrire ces valeurs-là dans les cahiers. Sauf que lorsque l'idée a été annoncée, il a été dit que progressivement ça va s'adapter. Mais au fil du temps, on se rend compte que on ne fait que reporter. Je ne sais pas si c'est dans un intervalle de 5 ans ou 10 ans que ça va se concrétiser. Mais la seule faute note que moi j'ai relevée dans cette démarche, et je l'ai quand même fait observer dans une émission récemment, et on ne comprend pas le pourquoi. Hier, on avait la librairie des mutuelles scolaires, le MUSCO, et qui permettait aux parents d'acheter les fournitures scolaires à coût réduit, pratiquement, et que d'un seul coup, cette structure-là est passé de l'autre côté, les fonds dilapidés. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas fait de bilan de cette structure, le MUSCO, qui était un des éléments qui aidait énormément. Maintenant, c'est au niveau de l'économie libérale. Chacun se bouscule pour avoir peut-être le monopole du marché et vendre les articles scolaires comme ils veulent, sans pourtant avoir aussi de contrôle évident des autorités. C'est bien vrai que le ministre ou la ministre démissionnaire a rencontré les opérateurs économiques dans le domaine qui ont assuré, mais allez aujourd'hui sur le marché, vous allez voir que les prix flambent d'un vendeur à un autre.
Il y a toujours de la spéculation sur
le
prix.
Tout à fait, sur le marché. Maintenant, au-delà de tout ce qui est annoncé, et que maintenant, parce que ça fait tellement du bruit, on se posait des questions, les parents de gauche à droite, et l'élève là qui n'aura pas un cahier ou dans lequel se trouvent ces recommandations, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que très rapidement, l'autorité a jugé bon de dire que ce n'est pas tellement si obligatoire. Si un élève n'a pas un cahier de ce genre, il ne sera pas puni. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut évoquer au cours de cette rentrée, je pense que beaucoup reste à faire. Vous allez dans les établissements scolaires, il y a beaucoup qui manquent de table-banc. Et des salles sont dans des états pas trop commodes. Les lycées qu'on a créés ici et là manquent de je sais pas, des lieux permettant de quand même faire des expériences, notamment pour ce qui concerne la science et le laboratoire, je veux dire. Bon, autant de manquements que nous avons dans l'éducation de notre pays, moi je pense qu'il faut quand même penser le problème dans sa globalité et apporter des solutions. Même si on peut nous juger que l'État fait des efforts, l'État n'a pas l'obligation de faire des efforts. Mais l'État doit quand même apporter des solutions viables à tous les maux, à tous les problèmes que nous avons.
D'accord. Abbas, oui, quand on prend aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a créé de polémiques au sein de l'Union, c'est-à-dire les cahiers portant les emblèmes. Beaucoup se posaient, des parents, bien sûr, se posaient la question, savoir est-ce que c'est obligatoire, nous devons aller vers ces cahiers, ou bien c'est plutôt quelque chose quand même qui est que nous n'avons pas l'obligation alors de le faire. Et là, le ministère, justement, a statué et que le ministère dit bien sûr que ce n'est pas obligatoire.
Oui, le ministère est sorti pour éclairer la lanterne des gens parce qu'il y avait trop de polémiques qui entouraient cette histoire de cahier aux emblèmes, au truc des emblèmes que les enfants devaient avoir. Je pense que ça a été clarifié pour dire que c'est progressivement que ça va aller. Justin l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on avait commencé cette situation depuis des années. Je crois que ça fait 2 ans qu'on a parlé de progressivement, on va insérer. Mais jusqu'à ce jour, c'est toujours, on reporte toujours. Je pense que c'est par rapport aux moyens également des parents, parce que ces cahiers risquent de coûter plus cher que les cahiers ordinaires que nous achetons. Donc je pense que c'est par rapport à ça que des reports, il faudrait que ça soit progressif. Mais on dit, si un parent peut acheter au moins un cahier parmi les fournitures, un cahier qui comporte les emblèmes du pays, dans ça, c'est acceptable également. Mais ce n'est pas une obligation. Il faudrait qu'on aille un peu mollo, et les choses vont rentrer dans les mœurs. Parce que quand on dit ça, ce n'est pas pour embêter n'importe qui, mais c'est pour amener les enfants à connaître au moins ce que c'est que nos emblèmes du pays, l'hymne national, les couleurs même de notre drapeau national, tout ça là. Et voir comment est-ce que si on montre les couleurs, comment il faut se tenir. Vous savez que souvent, il y a des gens qui ne respectent même pas lorsque la montée des couleurs. Je pense qu'il faudrait même faire ramener la montée des couleurs également dans les établissements, comme ça se faisait auparavant. Puisque avant, lorsque vous voulez entrer dans les classes, on vous rassemble sous le mât. Et après la montée des couleurs, on vous donne des conseils avant de rentrer. Les conseils, c'est sous forme de civisme qu'on vous donne avant que, à l'accueil, le lieu part des rangs, chacun regagne sa salle de classe. Et si on pouvait ramener ça également là, je pense que ce serait intéressant. Mais le prix, comme on l'a dit, c'est que le ministre, la ministre du Commerce avait à rencontrer les opérateurs économiques qui font, qui se chargent de la vente, bien de la fabrication de ces cahiers, pour leur assurer, pour leur demander que les prix ne soient pas exorbitants. Avant, on payait le cahier de 100 pages, un paquet à 900 francs. Aujourd'hui, c'est parti à 1000 francs. Et entre 1000 francs et 1500.
Oui, effectivement, c'est ce que je voulais même dire.
Entre 1000 francs et 1500. Donc, c'est pour cela que les parents crient aujourd'hui que les cahiers sont trop chers. Donc, il faudrait revoir ça. Par rapport au Limisco, je pense qu'il y avait, s'il y avait 7 Limisco aujourd'hui,
les librairies de
mutuelles scolaires, voilà, où les fournitures scolaires sont subventionnées, étaient subventionnées par l'État, on ne va pas souffrir, parce que nous, on a acheté ces cahiers-là dans les Limisco et ça nous revenait moins cher. Aujourd'hui, c'est sous forme de concurrence que les gens font. Les gens fixent des produits, des prix de façon anarchique. Parce que j'ai fait, si tu vas voir quelqu'un qui va fixer à 1000 francs ou à 1100 francs le cahier de 100 pages, un paquet, et l'autre va vous dire c'est 1300. Donc, voilà, il n'y a pas de contrôle, quoi. Il n'y a pas de contrôle. Bien que le ministre ait eu à réunir les opérateurs économiques là et les rassurer, mais dehors, sur les, dans les marchés et autres, vous voyez que quand vous sortez, il y a des femmes qui installent leur cahier. Elles vendent ça selon ce qu'elles veulent.
À la tête du client.
À la tête du client. Voilà, merci beaucoup. Donc je pense que c'est ça, si on pouvait contrôler ça. D'accord. Pour que les parents n'écrivent pas que ça coûte cher.
Oui, justement que c'est une question sensible, puisque les parents s'apprêtent à acheter même d'ailleurs les cahiers, et d'autres ont déjà acheté les fournitures scolaires pour leurs enfants. Mais toujours est-il que sur le terrain, il y a cette spéculation de prix, mais Abbas l'a souligné tout de suite, est-ce qu'on n'a pas besoin de faire un contrôle même d'ailleurs de ces prix aujourd'hui sur le terrain?
Vous savez pourquoi la polémique enfle et que les parents sont hésitants? C'est parce que les cahiers officiels, sinon les cahiers de l'État sont chers. C'est parce que les cahiers sont chers que la polémique est d'ailleurs née, parce que les gens sont hésitants, ils n'ont pas cette bourse-là pour aller chercher donc les cahiers officiels. C'est pourquoi je dis très souvent que lorsque vous voulez implémenter une mesure, il faut également prévoir des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que dans 5 ans, dans 10 ans, que les tout-petits, c'est-à-dire nos enfants qui viennent, il faudrait quand même qu'ils aient donc une identité nationale. Il faudrait qu'ils aient le civisme. Il faudrait qu'ils aient des actes, hein, qu'on prenne les actes civiques. Il faudrait le sens du patriotisme. Ouais. En réalité, c'est ce que nous voulons dans 5-10 ans. C'est ça, en fait, l'objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner, il faut mettre les moyens pour avoir les résultats. Mais quand aujourd'hui, on veut implémenter ou on veut faire passer une certaine mesure et que déjà il y a un handicap, vous conviendrez avec moi que demain, il n'y aura pas le résultat. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas les moyens. C'est pourquoi je disais souvent que on peut être aussi patriotique que je ne sais pas, que quiconque dans ce pays. Lorsque tant qu'au timat, il est vendu peut-être à 800 et que le Chinois l'amène à 200 francs, les Togolais seront obligés d'aller vers celui qui est le moins 10 ans, c'est-à-dire vers 200 francs, parce que ils n'ont pas la bourse d'aller chercher pour le Togolais qui est à 600 ou à 800. Voyez-vous donc, quand ils ont pris la mesure, je veux véritablement que l'État puisse, si les fabricants estiment que du fait donc des entrées, du fait donc de tout ce qu'ils ont dépensé, ils ne peuvent que vendre ce cahier-là à 1600, il revient à l'État de soutenir l'initiative. Il faudrait qu'il y ait une
subvention.
Il faudrait qu'il y ait une subvention pour permettre donc aux parents de l'avoir à bas prix et donc l'avoir à bas prix pour leurs enfants. Et donc la mesure va passer dans 5 ou 10 ans. On aura des enfants qui chantent bien l'hymne national, qui savent que lorsqu'on monte le drapeau national, on doit s'arrêter. Aujourd'hui, on n'a plus ces valeurs-là. J'ai vu, quand moi j'étais encore tout jeune, j'ai vu un monsieur se faire tabasser devant le camp d'Agido Gomé, le deuxième Henri, parce que on montait donc le drapeau. Il y a un monsieur qui, lui, il passait, il s'en foutait, mais après, les militaires l'ont récupéré et lui ont montré que, en fait, quand on monte le drapeau, tu dois t'arrêter. Ces valeurs-là, nous l'avons perdu. Aujourd'hui, quand on monte un drapeau, un enfant peut commencer à chanter donc peut-être la chanson de la Chicangolo. Vous voyez, donc il y a plus de valeur. Vous voyez, vous, donc il faudrait qu'on commence, quand il y a une mesure, il faudrait qu'il y ait une subvention pour que cela ne pèse pas sur les parents et qu'il y ait polémique. La polémique, il est née parce que les gens se disent qu'avant, on achetait les cahiers peut-être à 900 ou à 1000 francs. Aujourd'hui, l'État nous demande d'acheter ces cahiers et que ces cahiers se retrouvent à 1500 ou à 1800, on va trouver l'argent où? Voyez-vous, donc, il faudrait que quand on prenne des mesures, qu'il y ait une subvention. Et je crois que ça va passer. Mais en réalité, c'est pour renforcer le civisme et l'identité nationale avec les symboles de l'État, les symboles de la République, les emblèmes et tout. Maintenant, si devant ça, il y a un handicap, vous conviendrez avec moi que le résultat à la fin n'y sera pas.
On va quitter le sujet. Abbas, on s'intéresse bien sûr à ce sujet que vous nous donnez. Et c'est par rapport à cette mission du Fonds monétaire international FMI à Lomé. Et vous écrivez mission du Fonds monétaire international FMI. Le Togo a fait un diagnostic de sa gouvernance et de la lutte contre la corruption. Alors, on est tenté de savoir avec cette diagnostic, qu'est-ce que ce diagnostic a révélé?
Non, en fait, le diagnostic s'est déroulé entre le 25, la mission a séjourné entre le 25 et le 29 août dernier. Et c'est à la demande du gouvernement togolais par rapport au fait que en mars 2024, le Togo a eu un accord avec Facilité élargie des crédits FEC. Et c'est par rapport à ce système-là que le Togo a demandé qu'on vienne faire le diagnostic de sa gouvernance, et la gouvernance a porter sur la bonne gouvernance, la corruption, les marchés publics,
la passation des marchés publics,
et puis même la déclaration des biens des agents publics. Il y a aussi les gens font pour la corruption, luttent contre la corruption, et puis les affaires, comment les systèmes, les gens contrôlent ces gens de passation de marché au niveau de la justice et autres. Donc c'est sur ces points-là que nous avons évoqué dans le journal même que la mission s'est penchée. Donc pour le moment, on attend, les résultats sont attendus pour la fin de cette année, c'est-à-dire avant la fin de cette année, la mission va rendre public son rapport de mission et on verra ce qui s'est passé parce qu'elle a eu, par rapport à tous ces points que j'ai cités là, elle a eu à interroger au niveau du gouvernement comment les choses sont passées et les autres. Donc nous avons, à la fin de la mission, nous avons aussi voulu informer les populations par rapport à cette mission et pour le moment, avec l'attente des résultats et du rapport qui sera publié d'ici la fin de l'année.
Justin, c'est vrai que c'est des sujets épineux sur lesquels, ou du moins c'est des points très saillants, des points très importants sur lesquels la mission a eu à faire justement cette enquête, ou du moins cette mission s'est déroulée. Mais déjà, quand on prend la corruption, quand on prend un certain nombre alors de paramètres, est-ce qu'on n'a pas déjà une idée sur ce que peut-être la mission produira comme rapport?
Mais forcément, parce qu'on ne va pas chercher de midi à 14h pour avoir une idée sur l'état d'avancement de la gouvernance du Togo. Depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé, pratiquement plus de 20 ans déjà, tel que les choses sont évoluées dans les dernières périodes, on va quand même sentir que sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de thématiques, donc... le Togo a passé à côté de la plaque sur la gouvernance, non seulement ça, sur le haut niveau des emprunts, pour la construction des routes. On prend l'exemple de Lomé-Vougan en foin, tout ce qui a été dit autour de ce dossier-là, les 26 milliards qui n'ont servi qu'au détournement, les emprunts obligataires qui sont contractés ici et là, pour quel résultat? On se pose beaucoup de questions. Le Togo aujourd'hui, qui, quand vous interrogez les chiffres, est un pays, ou l'un des pays de l'Afrique surendetté, à quelle fin personne ne le sait. Je pense que ces missionnaires du Fonds monétaire international, FMI, qui étaient arrivés, au-delà de tout ce qui se dit également dans les élections de Bretton Woods, il va sans dire tout simplement que en matière de gouvernance, notamment la gouvernance économique, il y a problème. Parce que quand on parle du fond, c'est l'économie. Maintenant, sur la base de la gouvernance politique aussi, il y a problème. Lorsque la politique ne marche pas, la gouvernance économique aussi pose problème. Parce qu'on n'arrive pas à sévir, on n'arrive pas à punir les gens qui détournent les fonds publics, qui sont à la base même de la corruption. Donc, avec tous ces mots-là, moi, je pense que déjà, on peut avoir une idée sur ce qui va se dire après. Mais connaissant bien aussi les autorités du Togo qui font croire à l'opinion internationale que le Togo est un bon pays, tout va bien, il y a la démocratie, il y a l'état de droit, on n'empêche pas les gens de manifester, on n'emprisonne pas les gens pour leur opinion. Et d'ailleurs, ceux-là qui aujourd'hui sont en prison, aujourd'hui qui entament la grève de la faim, on a parlé de cas de Aziz Goma, et où des gens ont demandé d'aller visiter les prisonniers politiques, le registreur ou les directeurs de l'administration pénitentiaire de l'autre côté ont refusé. Autant d'éléments, lorsqu'on vous les mettez dans la balance, vous comprendrez tout simplement qu'on n'a pas besoin de tourner autour du pot pour avoir les résultats. Le Togo est mal gouverné. Les Togolais sont aujourd'hui dans le pétrin. Et je pense que tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Et en dehors du fait que la mission a séjourné à rencontrer les premières autorités du pays, je pense qu'ils ont eu également à rencontrer deux acteurs, même si c'est en sourdine, pour pouvoir enquêter sur la véracité des faits qui leur sont montrés tout au long de leur mission.
D'accord. Oui, est-ce qu'il n'y a pas certains faits qui sautent déjà aux yeux? C'est-à-dire, même quand on prend ce que Justin évoquait tout de suite, c'est-à-dire, il y a un prisonnier qui entame la grève de la faim et il y a un regroupement de partis politiques, c'est-à-dire la DMP qui voudrait bien aller voir cette personne en prison et cela lui a été refusé. Mais et quand on regarde alors tous ces faits en matière de gouvernance, est-ce que le FMI n'a pas déjà la matière pour donner ses résultats?
Non, écoutez, le FMI est souvent un peu plus économique, hein, intervient souvent sur le secteur financier, le secteur économique, parce qu'ils font souvent donc des prêts à l'État togolais. Donc, pris sous cet angle-là, aujourd'hui, lorsque vous voyez la manière dont les choses se passent, la gestion elle-même donc de l'État, nous avons souvent dit que la gestion de l'État togolais, la gestion n'est pas rigoureuse. Nous avons souvent dit ici qu'il y a tellement un laissez-faireisme, tout le monde vole l'État, tout le monde fait ce qui lui plaît pas à la tête. Rien que à me rappelant donc de ce que j'avais dit, de ce que disait il y a quelques mois le Aplusia qui disait qu'il y a certains qui ont été qui ont mis par devant eux les deniers de l'État. Et ils ont été pris, maintenant ils sont en train donc de payer. Vous voyez, c'est-à-dire que des gens qui ont volé l'État, on les prend, on dit bon, maintenant ils sont en train de payer.
De rembourser.
De rembourser. Ils sont en train de rembourser. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Vous voyez que la gestion n'est pas rigoureuse. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi je vole peut-être 100 francs de l'État, que j'investis dans un domaine et qui me rapporte peut-être 2000 francs, et on me dit de payer de rembourser, je rembourse facilement. Mais ça m'a permis donc d'avoir une autre activité parallèle à ce que je faisais, et peut-être comme fonctionnaire de l'État. Et là, vous avez triché l'État. Mais on me dit non, ils ont volé, on leur a demandé de rembourser, puis rembourser, puis basta, personne ne dit mot. Vous voyez un peu? Donc tous ces éléments-là, je crois que montrent que la gestion n'est pas rigoureuse, la gestion n'est pas saine. Si vous voulez, je vous redonne encore l'exemple là, que ça devient presque éternel. Mais cela, c'est un fait. La route Lomé-Vogan en foin. Cette route, il a fallu deux décaissements pour en finir avec cette voie-là. Mais il n'y a jamais eu, donc des gens n'ont pas été peut-être inquiétés, personne n'a été interpellé. Bon, voilà, quoi, ça continue, et puis comme si de rien n'était. Et la gouvernance soit sûre, on ira emprunter. Et c'est les Togolais qui vont payer. La dernière fois, je crois que nous avons épilogué ici, en ce qui concerne donc les 2000 milliards donc, oui, de dettes au premier semestre 2025. Voyez-vous, 2000 milliards. Là, on nous dit qu'on a même payé, on a déjà payé, et il ne restait que ça. Ils ont déjà payé une bonne moitié,
une bonne partie
de l'argent, et qui restait encore 2000 milliards.
C'était l'article que j'avais.
Voyez-vous, donc tout cela, je me dis que. On va sur chez ces partenaires techniques et financiers, les institutions de Bretagne, on emprunte tout ça, mais on voit jamais le résultat. On voit jamais le résultat. Voilà qui a problème. La voie là que nous avons empruntée tout à l'heure en venant à Canal FM, la voie de Badago, ça fait plusieurs fois qu'on qu'on refait cette voie-là. Il y a toujours deux trous jumeaux, surtout souvent sur la voie.
C'est cette voie-là qui s'appelle la nouvelle marche, non?
C'est la nouvelle marche, voilà. Oui, puisqu'il y a l'école de la nouvelle marche juste à côté.
Tu sais que je suis tombé.
Vous voyez, même un coffre est tombé avec son véhicule la dernière fois dans un grand trou la dernière fois. Et il est même sur ce plateau, peut-être lui-même il pourra en dire plus. Donc voilà, donc, c'est une situation que la gestion n'est pas rigoureuse. Il faudrait que le chef... C'est pourquoi moi j'avais toujours dit, et je continue à le maintenir, lorsqu'on va prendre un... Parmi tous ces gros bonnets-là qui vaut l'argent de l'État, là, on va prendre juste un, qu'on va mettre au nouf là, les autres seront droits dans le bateau. Mais on ne le fait jamais. On ne le fait jamais. Vous voyez des ministres qui sont immensement riches. Vous voyez un fonctionnaire d'État qui est immensement riche. Il a trouvé l'argent où?
C'est une aberration au Togo.
C'est pourquoi je dis qu'un fonctionnaire qui est riche, c'est un voleur. Je l'ai souvent dit ici, là, vous confirmez. Un fonctionnaire de l'État qui est riche, un voleur. Parce qu'on sait combien il gagne. On sait comment il a trouvé l'argent où?
Il fait des affaires.
Il fait quelle affaire avec l'argent de l'État? Donc, il y a tellement de choses que certains viennent peut-être au boulot, ils accrochent leur veste et puis ils partent faire d'autres choses. Voilà. Mais à la fin du mois, ça tombe. Vous voyez? Tout ça, donc on triche l'État. Donc, si la gestion n'est pas rigoureuse, c'est ce qu'on aura. Et puis, on n'aura jamais un développement à la béninoise. La dernière fois, on me dit qu'il y a encore un marché moderne à Thiévier. Allez voir ce qu'on appelle marché moderne de Thiévier.
Bétail.
Marché de bétail de Thiévier. Voyons pas le marché moderne.
C'est vrai que c'est des choses que nous ressassons d'habitude. Est-ce que Sylvestre alors vient de dire, et même surtout par rapport à cette émission, avant même cette émission, quand cette émission a été annoncée à Lomé, il y a certains qui sont revenus sur la dette publique. Beaucoup de gens se disent, mais écoutez, est-ce que justement nos dettes publiques nous rapportent quelque chose?
Oui, c'est ça qu'il faut savoir. La dernière fois, on en a discuté. C'était l'article que j'avais fait où le Togo, au niveau de la sous-région de Lyon-Moi, le Togo était en avant par rapport au règlement de ses dettes. Mais c'est la gestion de ces dettes-là, la gestion de ces financements qu'il faut revoir. C'est-à-dire que la rigueur dans l'application de ces dettes, dans le respect de l'application de ces dettes. Donc, je voulais rappeler les points sur lesquels, parce qu'il ne faut pas que les gens s'attendent à ce que ce soit sur les aspects politiques ou bien les emprisonnements. Mmh. Parce que ici, comme l'a dit Sylvain, c'est plus économique.
C'est le FMI.
C'est le FMI qui le fait. Et quand cette mission est arrivée, c'est pour découvrir les failles sur la gestion, dans la gestion des finances et proposer des stratégies pour les améliorer. Quand on prend les grands volets de l'audit. J'ai dit, il y a la lutte contre la corruption, identifier les mesures nécessaires pour renforcer l'intégrité et la transparence. La transparence budgétaire, c'est le deuxième point. Évaluer les pratiques actuelles et proposer des améliorations. La gestion des finances publiques, analyser l'efficacité des ressources publiques. Et quatrième, cadre juridique des affaires, examiner les lois et régulations qui régissent le secteur public et déclaration des biens, s'assurer que les responsables publics respectent les obligations de la transparence. Sixième point, c'est la procédure de passation des marchés publics. Évaluer l'intégrité et l'efficacité des processus d'achat public, l'indépendance des organes de contrôle et de sanctions. Garantir que les institutions chargées de surveiller et de sanctionner les abus fonctionne sans pression.
Donc tout ça, c'est beaucoup de points.
C'est beaucoup de points. Mmh. Et c'est point, sur ce point que la mission a travaillé. Et c'est sur ce point qu'on attend le résultat, le rapport de la mission d'ici la fin de l'année.
Justement.
Et ça va permettre de faire des propositions sur certains problèmes qui sont là, si certaines failles.
On attend justement voir.
On attend voir le rapport,
bien sûr. Vous l'avez si bien dit que c'est d'ici la fin de l'année qu'on aura les résultats, ou du moins le rapport alors du FMI par rapport à cette mission. On va aborder un autre sujet.
Oui, c'est un sujet qui est très intéressant.
Oui, j'aurais
aimé que prochainement qu'on revienne là-dessus.
Oui, on le fera.
On va parler un peu des fortunes de certaines sur la base de certaines choses qui sont liés par rapport à cette mission. Je rappelle au passage que le Togo a atteint le, le point d'achèvement PPT le pays pauvre très entêté en 2010.
En 2010,
où la douane a été effacée. Oui. Mais bien avant.
95% de la douane.
Forcément. Donc, bien avant, il y a encore des éléments qui sont liés à la fortune de nos gouvernants. J'aurais aimé qu'on revienne là-dessus, comme ça on va en parler, puisque ça me rappelle cette histoire publiée par le journal Forbes en 2002. Et sur la base duquel un journal qui s'appelait Agonami aussi a publié ici au Togo sur la fortune d'Yadema. Et cette fortune même qui a été à la base même de l'arrestation de Kwaka Nyasigbe. J'aurais aimé qu'on revienne là-dessus.
D'accord, on reviendra là-dessus. Oui, Sylvestre, je voudrais qu'on parle un peu politique. On parle politique avec ce sujet que vous avez écrit, bien sûr. Vous écrivez « Sentinelle du peuple, milice ou groupe d'autodéfense, tous condamnables ». Ça, c'est par rapport surtout à cette conférence de presse animée par les Sentinelles alors du peuple. Et c'est... À la veille alors de cette manifestation de la marche pacifique alors du 30 août, on se pose la question de savoir justement est-ce que c'est juste c'est des milices ou des groupes d'autodéfense. On a justement cet intérêt de savoir.
Oui, qu'ils soient milices ou groupes d'autodéfense, nous l'avons dit, tout est condamnable. Tout est condamnable en ce sens que lorsque la question a été posée au chef de l'État togolais, Fonia Singbe, en décembre 2017, chez nos confrères donc de Jeune Afrique, M. Fonia Singbe disait que c'est une réalité que nous déplorons. Il a dit que c'est une réalité que nous déplorons avec la naissance des groupes d'autodéfense. Et il continue en disant que c'est condamnable et nous le condamnons. L'interview est encore là sur le site de Jeune Afrique, décembre 2017. Maintenant, lorsque vous prenez ce groupe-là, qui refuse le terme milice et qui parle d'autodéfense, qui dit que, ils ont organisé une conférence de presse le 29 août, ils disent que, le lendemain, c'est-à-dire le 30 août, puisque la marche est appelée sur le 30, qu'ils vont également sortir pour défendre leur quartier et tout. Je me dis que, d'abord, ils sont dans l'illégalité. C'est pourquoi j'encourage ces Togolais-là qui se sont regroupés pour demander au ministre de l'administration territoriale le statut de ce groupe-là. Parce que lorsque vous prenez la loi sur les manifestations pacifiques publiques, c'est-à-dire la loi du 16 mai 2011, qui a été modifiée le 12 août 2019, oui, lorsque vous prenez cette loi-là, cette loi appelée loi Bojona modifiée, en 2019, lorsque vous prenez les dispositions de l'article de cette loi, c'est-à-dire l'article 10 et l'article 11, et je précise que ça doit être lu de manière combinée, lorsque vous prenez ces deux dispositions-là, je ne vais pas me donner littéralement donc le contenu, mais je vous donne l'esprit donc de ces deux textes-là. La loi dit que, en fait, le maintien de l'ordre est une mission régalienne de la police. Le maintien de l'ordre, c'est-à-dire la sécurité intérieure, est une mission de la police administrative et exceptionnellement de la défense. Pourquoi je dis exceptionnellement? C'est-à-dire que pour maintenir l'ordre dans un pays, la première unité ou le premier corps qui doit avancer, c'est la police. Lorsque la police est débordée,
la gendarmerie intervient.
On envoie la gendarmerie et la gendarmerie, je suis dit, parce que c'est un corps hybride police et militaire. Et maintenant, lorsque la gendarmerie aussi est dépassée, c'est en ce moment-là qu'on envoie donc la défense, les militaires, parce que normalement, eux sont censés protéger l'État en cas d'agression extérieure. Maintenant, pour la sécurité intérieure, eux n'interviennent que lorsque et la police et la gendarmerie sont dépassés. Maintenant, on sait, à partir donc de cette disposition, on sait qu'ils doivent assurer la sécurité intérieure dans un État. La police, la gendarmerie, et l'armée exceptionnellement. Maintenant, des jeunes qui se retrouvent, qui disent que eux, ils vont défendre leur quartier et tout ça, ils sont investis de quelle mission? Ils ne sont pas investis de l'autorité publique. Ils ne sont pas investis de l'autorité publique. C'est pourquoi, normalement, quand ils se sont regroupés la dernière fois pour rencontrer la presse, on doit quand même les disperser de manière propre et conventionnelle. Parce qu'ils n'ont aucune... et légitimité, ils n'ont aucune légalité à agir en matière donc de protection ou assurer la paix, comme ils le disent. C'est-à-dire l'autorité ne reconnaît pas le fait que on peut avoir recours à un groupe d'individus pour assurer la paix dans un pays. Ceux qui doivent le faire, je viens de donner leur nom, c'est la police, la gendarmerie et l'armée exceptionnellement. Maintenant, ces jeunes-là qui le font aussi demain, moi, si je regroupe des jeunes de mon quartier, j'ai dit, nous allons défendre nos quartiers. Et que demain, et Justin regroupe des gens, il dit, ça devient l'anarchie. Ça devient l'anarchie. Or, nous sommes dans un pays de droit. Et donc, ces jeunes-là, je vous dis, il faudrait quand même qu'on puisse dissoudre ce mouvement-là. Au vu donc des dispositions que je viens de relever, il faudrait quand même que les sentinelles du peuple, ou bien les amuseurs du peuple, je ne sais même pas, il faudrait quand même qu'on puisse décourager ces jeunes-là.
D'accord. Oui, voilà. Abbas, nous sommes dans une république, et dans une république, justement, la force légitime est accordée quand même à la police. Mais au même moment, quand on voit des jeunes qui s'organisent pour l'autodéfense, comme c'est dit lors de cette conférence de presse. Alors, est-ce que ce n'est pas inquiétant?
Oui, on peut dire que c'est inquiétant parce que, comme officiellement, ceux-là que nous connaissons, c'est la police, la gendarmerie, et quand ça devient un peu, ça dépasse les deux corps, les deux institutions, c'est les forces armées qui interviennent pour rétablir l'ordre. Parce que quand vous prenez les forces armées, c'est que ces forces armées-là sont là pour défendre l'intégrité du territoire national. Vous prenez la police c'est interne, la sécurité intérieure du pays, et la gendarmerie, appuyée par la gendarmerie pour la sécurité intérieure, la gendarmerie aussi peut intervenir pour aussi aider les forces armées togolaises. Aussi, le troisième degré, c'est ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les sentinelles. Ils ont une organisation, ils se sont organisés, ils ont donné une conférence de presse. Je n'y étais pas pour écouter ce qu'ils ont dit par rapport aux manifestations. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que ces gens de choses soient plus organisés, mais que ça ne s'attaque pas aux populations. Qu'on ne dit pas que l'autodéfense bien légitime, défense. Et c'est complètement autorisé par rapport à ça. Donc, je ne pense pas, comme je n'y étais pas à leur conférence de presse, je ne sais pas leur intention. Est-ce que c'est pour défendre la nation?
Mais parler déjà d'autodéfense, est-ce que ce n'est pas condamnable?
C'est ça que j'ai dit, que c'est condamnable. Officiellement, c'est ceux-là qui défendent le territoire. Les institutions qui sont là pour défendre le territoire. C'est la police, la gendarmerie et l'armée, les forces armées togolaises. Donc, pour le moment, leur intention à eux de juger et aux autorités également, aux autorités de la sécurité de juger. Vous voyez que comme avec les menaces, la dernière fois, comment ça se passe, le ministre de la Sécurité hier a pris une décision pour dire que...
Pour la fermeture alors des frontières.
Donc, c'est dans ce genre de choses que les autorités doivent réagir pour dire si c'est normal ce que les gens font, il n'a qu'à le dire. Mais si ce n'est pas normal, qu'on nous dise, comme Sylvestre le dit, je ne sais pas, si ils ont un truc, un récipicé, s'ils ont un récipicé, on peut dissoudre, mais s'ils n'ont pas encore de récipicé, c'est là aussi, ça va compliquer, ça va constituer un problème.
D'accord. Justin, nous sommes dans une république et là, c'est des jeunes qui se disent alors, qui font dans l'autodéfense et là, ça doit interpeller les autorités.
Forcément. Nous sommes au tournant de l'histoire, donc ce qui nous oblige peut-être à tirer sur la sonnette pour dire à ceux-là qui soutiennent ces bandes différemment constituées qui se réclament de groupes d'autodéfense, dont le nom est quoi, le sentinelle.
Les sentinelles du peuple.
Les sentinelles du peuple. Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, que dans le temps, feu Gérard Koumé, le maire adjoint Espoir Koudjordi,
et aussi
Jean-Emmanuel Gagnon
ont créé les sentinelles de la République.
Ont créé les sentinelles de la République. Ont porté sur les fonds baptismaux à Blodahome, si j'ai bonne mémoire, en 2017.
Justement, j'y étais.
Merci. Sauf que les sentinelles créées par feu Gérard Koumé, Espoir Koudjordi, Jean-Emmanuel Gagnon portaient sur des valeurs de la République. Si le sentinelle n'existe plus aujourd'hui, qu'il devait y avoir un autre sentinelle ou les autres sentinelles, il ne devait pas se réclamer du groupe de défense. je ne sais pas si je prononce, je vais prononcer bien le mot, mais les Kalangwe, quelque chose comme ça, le groupe, les bandits au niveau du Rwanda, là, qui se sont constitués, qui ont attaqué l'ethnie Hutu dans le temps. Il y a un groupe comme ça, et qui se réclame des groupes d'autodéfense, c'est comme ça a commencé. Et lorsque ça a pris, le pays était plongé dans ce qu'on appelle le génocide rwandais. Progressivement, on se rend compte que dans notre pays, les autorités entretiennent des jeunes, ni foi, ni loi, qui s'attaquent à leurs concitoyens. Et je rappelle au passage, si j'ai bonne mémoire.
Mais je sais, là, on ne sait pas si c'est. Enfin, on ne sait pas
qu'il
y a des autorités derrière.
Non. Ce que les uns et les autres ont dit, ça vaut la peine que forcément ces gens, ça devait être arrêté. Si à visage découvert aujourd'hui, ils se présentent devant la presse pour dire voilà, nous sommes les sentinelles de la République, nous allons défendre du peuple, voilà, du peuple, autant pour moi, nous allons défendre nos quartiers respectifs, parce qu'il y a une manifestation qui est projetée ou qui est en vue. Mais vous ne voyez pas que c'est trop dangereux, ça? Le jour, peut-être qu'ils vont prendre une arme blanche ou une arme peut-être à feu, et que d'autres jeunes s'organisent peut-être pour aller chercher également des armes. Où est-ce que ça peut donner dans une république? Vous parlez de la république, hein? Où est-ce que ça peut nous amener? C'est là où je dis que s'ils si arrivent aujourd'hui à se présenter à visage découvert, c'est parce qu'ils ont l'option de le soutien de certains. Parce que nous sommes dans une république, Sébès l'a démontré tout à l'heure. Les tests sont là, la loi ou les lois de la République sont là, et qui sont censés maintenant contrôler pacifiquement une manifestation ou peut-être lorsque ça va dégénérer ou non. Mais lorsque les jeunes se réclamant des sentinelles et qui portaient de t-shirts à l'effigie de leur mouvement et gaillamment et pâle menace les gens, vous pensez que c'est dans une République ça? Moi je pense que les ministres et les autorités du pays sont interpellées sur ce fait. C'est pourquoi d'entrée je disais que nous sommes au tournant de l'histoire. C'est d'aventure, il y a encore une manifestation que peut-être que ça va tourner au vinaigre. Je ne sais pas à quel sens vouer à ce moment-là.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission, bien sûr. Nous allons donner la parole à nos auditeurs sur nos deux numéros 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, et aussi sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp, vous pouvez réagir 90 45 78 57. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
Allez-y.
Oui, je salue tous les confrères.
Oui.
Qui sont aussi avec vous. Et pour cette histoire de la rentrée prochaine avec cette histoire de cahier, vous l'avez dit, il faut que l'État se sanctionne. Allez poser la question à l'imprimerie qui a fait ce travail. Combien il a acheté les rames de papier? 80 grammes, 60 grammes, combien ça coûte présentement? Avant, ce n'était pas comme ça. L'encre qui entre dans l'impression de ces cahiers. Il faut aller questionner cet imprimeur-là pour voir si l'État ne peut pas subventionner pour la prochaine fois. Parce que tout est cher. Il faut que l'imprimeur aussi fasse des calculs. Donc l'État doit subventionner pour la prochaine fois. Heureusement que ce n'est pas obligatoire pour cette année. Et pour cette histoire de sentinelle, c'est un milicien qui s'est mis à sentinelle, pour qu'on n'en parle pas. Avant, on les appelle miliciens. Il y a un autre qui dit il faut. Franchement, ces sentinelles, je ne pense pas que ce mouvement sera dissous. Parce que c'est ces miliciens qui se mettent à sentinelle.
Donc, merci beaucoup.
Nos autorités savent bien.
Merci beaucoup Sylvain pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô.
Allô.
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Oui, sentinelle de la paix, du peuple. Qu'ils sont nés en 2017. Et ce qu'on a déversé avec les véhicules de ce Toko Atakwame en 2005. Et il s'appelait quoi? C'est-à-dire, ce ne sont pas les individus d'autodéfense. Vous voyez, le 30 août a marché pour le peuple. Ils ont, à la veille, préparé les sentinelles du peuple là pour venir effrayer les gens encore de se rappeler de l'année 2005. Et en les baptisant sentinelles du peuple. Sinon, on sait comment ça s'opère dans l'obscurité. Aujourd'hui, les gens ont rendu officiels. Alors, si c'est par un décret, les Togolais veulent le savoir. Si c'est par concours, on devient membre des sentinelles du peuple, on veut le savoir. Sinon, tous les Togolais, tous les jeunes veulent s'inscrire dans la logique des sentinelles du peuple sans couleur. Ou bien c'est à l'unir seulement qu'on a les sentinelles du peuple. On veut en savoir. Sinon, dans la gestion du pays, si on va à l'Université du Bénin, le jeune là qu'on vient de choisir, il est en train de faire ses bilans en quelques années, ce qu'il est en train de faire au Bénin.
Vous parlez de quel jeune?
Peut-être ils ont vu que, bon, si on le laisse prospérer, il sera le futur président. Et rapidement, le gars a pris son argent, il est parti. Donc, c'est la médiocrité qu'on voit au Togo jusqu'alors. Bonne émission.
Merci, monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Concernant cette histoire des emblèmes sur les cahiers, pour moi, je trouve que c'est une pagaille pour avoir un modèle de citoyen. C'est dans la pratique, comme par le passé, au moins, nos dirigeants n'ont qu'à copier ce qui se fait actuellement au Burkina Faso. La mentalité citoyenne est changement permanent. Ce n'est pas question de mettre quoi sur les cahiers, mais le vivre. Et pour la mission de la du FMI, nos dirigeants seront à la barre de cette institution par rapport à la dette publique. C'est Ibrahim qui nous écrit. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, M. Pascal.
C'est monsieur?
Mawena.
Monsieur Mawena. Voilà, allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Je salue mon frère Jussouves. C'est un petit frère pour moi. Bon, on a vécu ensemble. Il me connaît très bien.
D'accord, allez-y.
Je salue tout le plateau. Je salue dedans aussi. C'est très vraiment heureux. C'est bien. Monsieur Pascal, nous, le problème que nous avons dans ce pays, c'est nos dirigeants. Nous ne nous voyons pas la face, quoi. C'est nos dirigeants. Tous ces groupes, c'est eux qui sont derrière tout ça, là. C'est eux. Ça ne vous étonne pas, c'est eux qui sont derrière tout ça, là. Pour conserver le pouvoir, ils se sont prêts à qui? Monsieur Pascal, il y a tous les partis, vous avez dit, jusqu'où là, c'est où maintenant? C'est où maintenant? Ils ont tout l'argent, ils ont ramassé tout l'argent du pays, encaissé dans leur chambre. Ils ne voulaient pas sortir ça pour aider la population. Et je sais, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, quoi. Ils ont endetté le pays et amassé l'argent dans leur chambre. Ça, c'est sanguinaire, quoi. Monsieur Pascal, c'est malheureux, hein, dans ce pays. C'est nos dirigeants. On a utilisé tout le monde, on a rien contre son projet. C'est nos dirigeants. C'est qu'ils sont fait des ordres là pour casser le pouvoir. Mais c'est le pitié, quoi.
Merci, monsieur Mona. Bonjour, Pascal. Lorsque Sylvestre parle du statut des jeunes qui veulent défendre leur localité et les blogueurs qui appellent à manifester et qui ne sont pas au pays, ont-ils, eux, leur statut? C'est signé Akondo. Et Akondo qui nous a écrit 90 86 35 35. Allô?
Oui, allô.
Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
C'est monsieur Yao.
Oui, bon, c'est M. Marc.
Pardon?
M. Marc.
Ah, c'est M. Marc.
Oui, j'appelle quand j'ai payé.
D'accord, quand j'ai payé, allez-y.
Et donc, pour la couverture du cahier, je demande aux autorités de faire tout au moins pour abaisser ce prix, afin que certains parents aient au moins certains soirs à pouvoir acheter le cahier à ses enfants.
D'accord.
Bon, pour le côté santé, bon, je peux m'atterrir directement à Tocon. Je ne suis pas à Tocon. Bon, je suis à Tocon, directement, ça fait quelques semaines. Ce que je vois vraiment à l'urgence, c'est pas du tout mon envoi. Je demande, est-ce que quelqu'un peut supporter? Je ne sais pas si
les autorités ont déposé un fonds au moins pour s'occuper au cas, c'est-à-dire à ceux qui sont venus sans personne, au moins pour qu'ils prennent soin à eux, je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui a une facture, les eaux ouvertes, hein, directement, une personne déposée à terre, il n'y a pas qu'à 24 heures, le sang qui coulait partout. Comment une personne peut suivre à ça? Une personne amenée à l'urgence, les eaux sont sorties. À terre ouverte comme ça, maintenant 24 heures, sans premier soin. Bon, je demande aux autorités, pardon aux autorités. Au moins, si je ne sais pas si j'ai déposé un fonds, je fais tout pour au moins, pour le premier soin.
D'accord. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Marc. Justement, ce que vous évoquez est très important. Et il suffit tout simplement d'être dans la situation avant de savoir exactement ce que c'est. Bonjour, Canal FM. Pour ce qui concerne les prix des articles scolaires, notre gouvernement doit prendre une décision ferme pour que cela soit à la portée de la population. C'est André qui nous écrit depuis Dakar. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gado. Comment vous allez?
Ça va très bien. Bonjour, Plateau.
D'accord, allez-y.
Le problème de ces sentinelles-là, c'est que c'est les sentinelles de Jésus-Christ, Sylvanus Olympio. Moi, je serais d'accord. Il dit sentinelle, que dit-il de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Mais ces sentinelles-là, ils font quoi? La nuit est toujours longue avec eux. Ces sentinelles imaginaires, messieurs, bonne journée.
Merci pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui.
Bonjour, Pélé.
Bonjour.
Hey, oui, Pélé, bonjour.
Salut le plateau.
Oui, salut.
Bon, j'ai occupé le développement de M. Denis tout à l'heure par rapport à la sécurité de l'État. Lorsque la police intervient, tout ça ne va pas. Il cède la place à la gendarmerie. Quand ça ne va pas, il cède la place aux forces de l'ordre, c'est-à-dire aux forces de défense. Maintenant, le 29 septembre prochain, ça va faire un an, jour pour jour, où il y avait une agression au moment où la gendarmerie était là. Regardez. Donc, qu'est-ce que M. Sylvestre Denis, quelle analyse peut faire par rapport à ce silence de la gendarmerie? Merci.
Merci Pélé pour votre intervention. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte lors de cette émission. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
Kokou.
Monsieur Kokou, vous nous appelez de quel quartier?
Oui, Didjolé.
Pardon?
Didjolé.
Didjolé.
Oui.
Et vous veuillez parler un peu plus fort, Monsieur Kokou.
Ok.
Allez-y.
Je dis, quand... ces sentinelles-là ont passé leur conférence de presse-là. Vous avez été? Parce que celui qui est devant, celui qui a pris la parole, je crois que vous connaissez son nom. Parce que son nom ne doit pas être caché. Comme ça, un jour, si on entend que les sentinelles ont attaqué quelqu'un, quelque part, qui a eu mort ou blessé, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Donc, il ne faut pas cacher son nom, il faut que son nom soit partagé. Pour que nous tous, nous connaissions son nom. Merci.
Merci, Kokou, pour votre intervention. C'est qu'on ferait, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de clôturer cette émission de ce jour. Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres. Il y a Pélé même qui vous a interpellé.
Oui,
oui, votre réaction?
Non, je crois que Pélé faisait allusion à ce qui s'est passé au siège de la CDPA quand les militants ont été agressés par des individus qui courent toujours. Et il disait que il y a la gendarmerie qui est là, n'a pas intervenu. En réalité, je crois que si on était dans un pays où les principes et les valeurs sont respectés, je crois que les éléments qui étaient sur le terrain en ce moment-là doivent être appréhendés. Parce que pour non-assistance aux personnes en danger. Parce qu'il y a des individus qui viennent agresser d'autres personnes. Encore que, en me référant aux déclarations de Mme Ajamagbo, déjà dans la journée, elle disait qu'il y a quand même une troupe de gendarmerie qui est arrivée, qui disait qu'ils sont là pour sécuriser la rencontre. Maintenant, s'ils sont là pour sécuriser la rencontre et que d'autres individus sont arrivés pour commettre donc des voies de fait. Normalement, leur mission, c'est de les appréhender. Mais ils l'ont pas fait. Donc là, dans ce cas, on parle donc de non-assistance aux personnes en danger. Donc je disais que les éléments là qui étaient là à l'époque, qui n'ont pas secouru ceux qui sont agressés, doivent être appréhendés et subir la rigueur de la loi selon ce qui est donc propre à leur corps. Maintenant, c'est un fait. Maintenant, je crois qu'il y a Akondo aussi qui me posait une question.
Et il y a Akondo qui écrivait, lui, il nous a écrit plus tôt et il disait, effectivement, que quand vous dites que les sentinelles n'ont pas alors de statut, et ceux qui demandent ou annoncent les manifestations à l'extérieur du pays, est-ce qu'eux, ils ont un statut?
Je voulais véritablement que Akondo puisse être honnête avec lui, envers lui-même. Si c'est le Akondo que je connais, peut-être aussi les réseaux sociaux, je dirais que c'est une déception, cette question-là. Ceux qui sont donc dans la diaspora et qui appellent donc les Togolais à manifester, on voit clairement leur vision. On sait ce qu'ils veulent. Maintenant, les sentinelles qui sont là, leur mission, c'est quoi? Il faudrait quand même qu'eux aussi nous disent clairement que bon, ils sont là pour tabasser ceux qui appellent donc à manifester. Et là, on saura véritablement faire la part des choses. Voyez-vous, s'ils disent clairement que nous sommes là également pour répondre aux gens du M66, mais là, on se dit, bon, voilà, c'est ça votre mission. Maintenant, on va interroger les têtes s'ils sont investis de cette mission. Dans le cas contraire, il faudrait quand même qu'on puisse savoir ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Donc, voilà quoi. D'accord. Akondo, j'ai répondu, j'espère.
D'accord, je pense que vous avez répondu. il trouvera sa réponse. Abbas?
Non, pas grand-chose. Surtout par rapport aux fournitures scolaires, les gens sont intervenus dedans pour demander au gouvernement de faire quelque chose. Je sais que le gouvernement est en train de faire des efforts, surtout au plan de l'éducation, où il y a la gratuité de l'école du primaire jusqu'au secondaire qui est là. Si aussi, on pouvait aussi étendre, parce que maintenant, comme les gens, vu la situation que nous vivons, si on pouvait étendre cette situation par rapport au cahier, puisque quelqu'un a proposé que lorsque vous allez poser la question aux imprimeurs, à ceux-là qui vont même pour se faire imprimer le cahier, vous savez combien de RAM ils amènent, l'encre qui est utilisée, est-ce que la subvention peut passer par là pour, afin de au moins d'abaisser la tension qui est là à chaque rentrée scolaire pour que les cahiers soient moins chers. D'accord. Et les questions de l'EMISCO, si on pouvait aussi revoir ces questions de l'EMISCO là. Et si on ne peut même pas ramener l'EMISCO, la librairie de matériel scolaire, on peut faire un contrôle, comme on l'a dit, faire comme il y a les inspections d'État, qui contrôlent les prix. On a eu à faire ça avec les gaz, le problème de gaz qui est là. Donc on peut amener ceux-là qui sont chargés de vendre les cahiers à le faire.
D'accord, merci beaucoup Abbas. Il y a cet auditeur qui nous écrit sur justement cette question de fournitures scolaires. Il dit, bonjour le plateau, pour mieux juguler le prix des articles scolaires à la veille de cette rentrée scolaire, il urge que l'État réfléchisse pour faire revenir les muscaux qui existaient dans le temps et facilitaient un peu la tâche à nos parents quand nous étions sur les bancs dans les années 1900, enfin dans les années 2000, j'allais dire, et c'est Adi qui nous écrit depuis Adakpa. Mais oui, Justin?
Non, on a écouté les uns les autres. C'est M. Nyambavo qui a fait une très belle observation là, et qui me renvoie sur un certain nombre d'événements depuis que le régime en place datant de 1967 ou d'avant est installé au Togo. La réponse qu'on trouve à la contestation, c'est la répression sauvage. Et on en a également connu en 2005, lorsque le coup d'État militaro-civil a été opéré, amenant Fonia Sibe au pouvoir. Donc, ceux-là qui sont dans ces pratiques-là pensent toujours qu'à chaque fois, et la réponse qu'il faut donner à la contestation, c'est la répression. Ou voir armer des civils, des miliciens, et à visage découvert ou non. Maintenant, aujourd'hui, nous avons en face des gens qui se réclament les sentinelles de la République, avec tout ce que nous avons
du peuple,
c'est ça le nom. Autant pour moi, et qui sont toujours là. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire, j'aimerais interpeller les premières autorités en charge de la sécurité des Togolais. Nous sommes au tournant, tel que ça s'annonce là, je ne pense pas que demain ou après-demain, les Togolais vont résigner. Je finis par là pour interpeller, pour interpeller encore une fois la TDE sur le problème des retraites complémentaires des agents qui ont fini leur carrière professionnelle. Ils sont dans la détresse. Ce dossier-là, je t'avais parlé. Lorsqu'on en parlait ici, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire non, les choses ne se passent pas comme ça. Et que par après, la TDE va nous donner des réponses. On attend depuis là jusqu'à présent rien. Nous allons encore rebondir sur le même sujet très prochainement.
D'accord. Merci, Justin Anani, d'être passé dans cette émission. Vous collaborez avec beaucoup de médias et les radios notamment. Merci. Hein. Merci, Sivert Beni, directeur de publication du journal La Manchette. Abassi Saka, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelé pour aussi vos diverses contributions à ce débat. Michel Tomega a assuré la mise en onde. Jérôme Dacouté était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.